Donc ce soir, nous allons avoir la conférence qui aurait pu être la conférence d'introduction, mais c'est pas grave, juste un décalage d'une journée. Qu'est-ce que l'ingénierie industrielle, une palette des savoirs? Elle est donnée par Julien Pouillot, qui est directeur de projet chez Technip. Julien Pouillot est né en 1971. Il est ancien élève de l'école polytechnique et diplômé de l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs, l'IFP. Il est directeur de projet chez Technip, actuellement en charge de la conception et de la réalisation d'une usine de gaz naturel liquéfié au Qatar. Il a débuté sa carrière chez Technip en 1995. Et ça fait quand même déjà 12 années d'activité. Je vous ai remarqué je le trouvais fort jeune quand même. Il a occupé des postes variés au niveau des métiers de l'ingénierie industrielle, génie des procédés, contrôle de projet, construction, mise en route, et aussi au niveau des types d'installations, raffinage, éthylène, gaz naturel liquéfié. Et ceci, je dirais, dans une carrière très largement internationale. Il occupe des responsabilités de direction de projet depuis maintenant 6 ans. Et je crois qu'il va nous présenter en une cinquantaine de minutes, une heure, suivi des questions comme d'habitude, l'ingénierie industrielle. Alors je le laisse tout seul ici pour pouvoir profiter de la présentation, et puis je reviendrai au moment des questions. Merci.
Okay. Merci. Merci à M. Michaud. Bonsoir à tous. Donc c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter l'ingénierie industrielle qui en fait est mon métier. Métier peu connu bien sûr du grand public. Comme l'a dit M. Michaud, ça aurait dû être la conférence d'introduction. Bon, peu importe. C'est sûr que si on m'avait dit il y a une vingtaine d'années qu'un jour je travaillais chez Technip, j'aurais été très surpris dans la mesure où je l'ignorais jusqu'à l'existence de cette société. Donc ce que je vais essayer de vous montrer du doigt, c'est la palette de connaissances et les techniques de pointe qu'on peut mettre en place, qui vont peut-être vous permettre à chacun d'entre vous de vous sentir un peu plus proche de ce métier. Alors, pour passer en revue l'ingénieur industriel, j'essaierai dans un premier temps, avec beaucoup d'humilité, d'en définir les origines et voir comment cette activité a pris son essor. Et je la décrirai dans son contexte actuel, selon deux piliers que j'estime principaux, à savoir la notion de chaîne de l'ingénierie et par la suite la notion de gestion de projet. Voilà. Et pour clôturer, je vous passerai une série de slides afin de vous faire profiter des différentes variétés et diversités qu'offre ce métier. Alors, quand j'ai préparé cette présentation, parler de mon métier, ça me paraissait relativement simple. Il se trouve que définir un ingénieur ou l'ingénierie, j'étais quand même bien en peine, donc je me suis plongé dans des fondamentaux, à savoir le Larousse, qui sera peut-être la seule chose non discutable durant cette conférence. Donc je vais vous lire bêtement la définition, à savoir qu'un ingénieur, c'est une personne que ses connaissances rendent apte à occuper des fonctions scientifiques ou techniques, actives, en vue de créer, organiser ou diriger des travaux qui en découlent, ainsi qu'à y tenir un rôle de cadre. Alors, je voudrais juste retenir quelques mots forts, donc il y a des mots comme connaissance, comme scientifique, et surtout les verbes créer, organiser. Derrière l'ingénieur, il y a la notion, il y a le concept d'ingénierie. Alors malheureusement, il semble que ce soit une traduction de l'anglais engineering, donc je profite de cet aparté pour m'excuser par avance. Mon métier est fait de beaucoup d'anglicismes, et il se peut, même si j'ai essayé de les chasser de la présentation, qu'un ou deux m'échappent, donc je tiens à m'en excuser. L'ingénierie, c'est l'ensemble des plans et des études qui permettent de déterminer pour la réalisation d'un ouvrage ou d'un programme d'investissement les tendances les plus souhaitables, les modalités de conception les meilleures, les conditions de rentabilité optimales, les matériels et les procédés les mieux adaptés. Bon, comme je le disais, la traduction recommande ingénierie. Là aussi, les mots forts, c'est études, ouvrage, programme, conception, mais surtout aussi optimisation, dans le sens où on cherche à atteindre un but. Donc de ces deux mots, on sent clairement une notion de maîtrise d'œuvre, et le tout bien entendu dans un cadre scientifique et technologique. Là aussi, j'ai essayé de revenir un peu en arrière avec aussi beaucoup d'humilité, parce que c'est pas mon métier, j'ai fait un peu d'étymologie. Donc ingénierie, a priori, vient d'ingenium en latin, donc qui signifie esprit, disposition naturelle, talent. Ingénierie, c'est également du vieux français ingeniere, qui signifie l'art de procréer ou l'art de créer. Et ingénieur vient également du vieux français ingénieur, qui veut dire constructeur d'engin de guerre. Si on veut dégager une tendance également, il y a cette notion de création, avec à l'esprit de mettre à disposition les talents et les dispositions naturelles de chacun, voire de les dépasser et d'atteindre leurs limites. Ce qui, étymologiquement, pour l'ingénieur que je suis, est assez satisfaisant. Alors, dans le passé, si on essaie de continuer dans cette voie, on se rend compte que l'ingénierie a pu se caractériser par les édifices que je vous montre à l'écran, à savoir des édifices monumentaux, ou de l'art militaire et des cathédrales. Il faut savoir que dans le vocabulaire du compagnonnage, de nombreux termes sont dérivés du vieux français, et ces termes sont toujours utilisés aujourd'hui dans le génie civil. Mais on peut considérer que les créations que je vous montre sont les premiers témoignages d'ingénierie, non industrielle, mais d'ingénierie quand même. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on a pu passer de ces réalisations à but, on va dire, non industriel, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses en commun, à savoir que quand on prend les ouvrages que je vous ai montrés, l'ingénierie industrielle telle qu'on peut le voir aujourd'hui, il y a quand même une mise en commun de compétences, comme je l'ai dit. Il y a la volonté d'utiliser au maximum, voire de remettre en cause les limites du savoir actuel et leurs applications. Et aussi cette notion de projet à travers la réalisation d'une unité, d'un ouvrage d'art. Et in fine, chaque unité a un but. La seule différence qu'on pourrait voir est en fait la finalité. Dans ce que je vous ai montré, il y a l'art dans un cas, que ce soit l'art militaire ou que ce soit l'art religieux. Dans le cadre de l'ingénierie industrielle d'aujourd'hui, c'est la production industrielle à base technique et scientifique. Alors, pour pousser le bouchon un peu loin, on peut quand même se poser la question de savoir si c'est si différent que ça. Donc on peut comparer la tour Eiffel qui est un ouvrage d'art industriel d'une certaine façon, puisque ça n'avait à l'origine aucune vocation industrielle quelconque. Et ce magnifique derrick d'une torche de raffinerie, bon, pour information, ça fait environ 210 mètres. C'est un peu plus petit que la tour Eiffel, certes, mais c'est quelque chose qui se fait couramment aujourd'hui. Et pour être encore pire, on pourrait comparer cette unité de distillation atmosphérique de la raffinerie de Midor, qui m'est chère parce que j'y ai travaillé en Égypte, et la cathédrale de Rouen, avec les mêmes formes élancées, etc., etc. Moi, j'y vois beaucoup de similitudes. J'espère que vous aussi, à la fin de la présentation. Alors, plus sérieusement, en fait, la notion d'ingénierie industrielle s'est vraiment formalisée au 19e. Déjà, il y a eu la vraie reconnaissance d'un métier d'ingénieur en tant que tel. Bon, il y a eu des prémices d'apparition en Allemagne avec le titre de docteur ingénieur et la même chose en Italie. La révolution industrielle a vraiment exprimé la volonté de mettre en application, si vous voulez, les découvertes scientifiques les plus récentes au service de la production et du transport des matières. Donc, tout en gardant bien sûr à l'esprit la productivité et la rentabilité. Donc, on changeait de but entre l'art religieux et l'art militaire vers une logique beaucoup plus industrielle. Alors, c'est vrai qu'à ce titre, le pétrole, et en tout cas l'explosion pétrolière aux États-Unis au 19e a été vraiment un catalyseur pour ce développement d'ingénierie industrielle, dans le sens où le pétrole en tant que produit nécessitait de faire des avancées importantes, que ce soit au niveau de l'exploitation de la matière, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau du traitement, puisque le pétrole en tant que tel n'avait pas d'utilité réelle, et bien sûr du traitement de ses dérivés. Alors, on pourra citer quelques hommes d'exception, entre parenthèses, d'exception dans le sens où ils ont contribué énormément à l'avancée de l'ingénierie industrielle. On pourrait être ensuite plus polémique sur leur carrière. Bon, Eiffel, je l'ai cité. Il y a les frères Schlumberger qui ont fait énormément de choses dans le cadre de la prospection et de la sismique pétrolière. Georges Bissell, qui a couvert la Pennsylvanie de Derrick dans les pas du colonel Drake. Rockefeller, bon, ça on pourra en discuter plus longtemps, et les frères Nobel avec le développement du pétrole en Russie. Alors, on arrive aujourd'hui à une situation où l'ingénierie industrielle, en fait, est un secteur d'activité très structuré dans le sens où ça repose sur un marché international, avec des acteurs qui sont plus ou moins connus du grand public, donc des clients que les gens connaissent, qui sont les grands majors pétroliers, en tout cas pour nous Technip, donc des gens comme, enfin des compagnies comme ExxonMobil, comme Total, comme Shell, etc. Et des contracts, enfin ce qu'on appelle des contracteurs, donc des sociétés d'ingénierie, donc dont Technip fait partie bien sûr, mais également d'autres sociétés comme Bechtel et Kellogg Brown & Woods que vous connaissez peut-être moins. Le tout bien sûr dans une norme de métier installée, avec des sociétés plus ou moins spécialisées dans certains secteurs, avec des modes de fonctionnement contractuels et avec des types de services différents. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, ce qui pour moi caractérise vraiment l'ingénierie industrielle, c'est dans un premier temps une grande diversité de problèmes qui font appel pour les résoudre à beaucoup de compétences et de savoirs, et surtout dans le cadre d'un support, enfin dans le cadre d'une grande technicité et d'un support scientifique constant, et le tout dans le cadre d'un travail d'équipe qui fait appel à beaucoup d'intervenants. Et pour illustrer un peu plus ce propos et rentrer vraiment dans le détail de l'ingénierie industrielle aujourd'hui, je voudrais illustrer deux choses, deux concepts forts en fait, ce que sont la chaîne de l'ingénierie dans un premier temps et la notion de gestion de projet dans un second. Alors, on parle de chaîne de l'ingénierie parce que quand on travaille de l'intérieur, on se rend compte que l'ensemble des tâches qui permettent d'arriver à la conception et à la réalisation d'une installation industrielle sont vraiment structurées en chaîne. Et à ce titre, dans notre métier, on parle souvent, on utilise le jargon EPC, contrat EPC, pour dire Engineering Procurement Construction, c'est-à-dire ingénierie, achat, construction. Dans le sens où l'ingénierie va, de par les études qu'elle génère, développer des plans, et des données qui vont permettre d'acheter du matériel qui va être livré sur un site de construction et assemblé selon les plans que l'ingénierie aura effectivement produits. Donc on voit bien que les tâches sont en interaction et les tâches s'enchaînent selon un flux d'informations. Alors, pour illustrer un peu plus dans le détail, on voit les trois piliers, ingénierie, bon, procurement, qui est le mot anglais pour achat, qui est un peu difficile à traduire, construction. L'ingénierie regroupe deux activités majeures, le génie des procédés et ce qu'on appelle les études. Le procurement, c'est les achats, la relance, l'inspection et le transport. Et la construction couvre construction, marché de travaux et mise en route. Et je vais vous passer un petit peu en revue l'ensemble des activités qui couvrent les études. Alors, la première tâche, enfin la tâche qui débute un projet de réalisation d'unité industrielle, c'est le génie des procédés. Alors, le génie des procédés est un peu à la charnière entre les études de recherche et développement et la production de masse, à savoir qu'il traduit à grande échelle, enfin en tout cas en une échelle industrielle, des résultats de laboratoire. En termes de compétences et d'activités scientifiques, c'est à forte connotation thermodynamique, chimie et mécanique des fluides. Donc, dans notre activité d'ingénieur industriel, cette première étape consiste à figer sur le papier les grandes lignes de la conception de ce que sera l'unité industrielle, de par ses paramètres opératoires en termes de pression et de température, de par les équipements principaux qui vont venir composer cette installation et la faire fonctionner, et de par les flux de fluides qui vont circuler entre les différents composants. Cette activité fait appel à un domaine, enfin un acteur particulier dans notre métier, qui est le domaine des bailleurs de licences. Celui qu'on connaît beaucoup en France, c'est l'Institut français du pétrole, à travers aujourd'hui une société qui s'appelle Axens et qui s'appelait avant la division industrie de l'IFP. Et le plus gros est un bailleur de licences américain qui s'appelle UOP. Alors, aussi bien le génie des procédés est à la jointure entre recherche et développement et unité industrielle, autant les études permettent de traduire de la théorie en ce qu'on appelle des plans bons pour construction, qui sont en fait l'écriture sur plan de ce que sera l'unité industrielle. Ça met en jeu toute une série de domaines, toute une série de disciplines scientifiques, d'activités qui sont listées sur le transparent qui vous voyez apparaître, que je vais vous décrire, qui vont d'activités qui sont très connues pour ne pas dire usées, comme du génie civil par exemple, à des domaines excessivement pointus qui ont pu vous être présentés hier par Pierre Armand-Thomas et qui vous seront présentés par d'autres intervenants. Alors, on fait appel à de la mécanique. Donc la mécanique, c'est l'ensemble des équipements qui vont constituer l'installation, qui vont permettre soit de véhiculer les fluides pour les machines tournantes, par exemple, soit de les stocker pour les ballons de stockage, ou les transformer, les séparer pour les colonnes de distillation. Vous voyez à l'écran ici une colonne de distillation qui sépare des fractions d'essence, qui m'est chère puisqu'elle a fait partie d'un projet auquel j'ai contribué en Belgique. Toute une série d'équipements dits assemblés qu'on appelle des packages, hein, pour des extrudeuses, du convoyeur, et également des fours, alors qui vont largement au-delà de votre four de cuisine, hein, qui permettent bien sûr d'apporter l'énergie nécessaire aux différents échanges de température entre les différents fluides. Pour relier ces équipements les uns avec les autres, eh bien, il faut mettre des tuyaux entre tout ça. Alors la tuyauterie, c'est pour moi un petit peu le côté féerique d'une installation. Ça donne un petit peu son charme. Je pense que pour vous tous, ça décrit la complexité de l'installation, puisqu'il y en a un peu partout. Ça tourne dans tous les sens et on se demande bien quel esprit malin a bien voulu les mettre là. Ça ne résulte pas du hasard. Hein. C'est aujourd'hui de la conception par ordinateur, donc de ce qu'on appelle de la CAO 3D, et je vous décrirai un tout petit peu ce que c'est. Donc, qui répond à des calculs de contraintes, des calculs de dilatation thermique, de flexibilité, qui met en jeu des matériels de tuyauterie qui doivent être aptes à répondre à des conditions de corrosion, à des conditions de protection cathodique et également qui doivent être calorifugés de façon à éviter les déperditions thermiques. Autre sujet, donc ces équipements doivent aussi pouvoir tenir sur le sol, donc beaucoup d'études de génie civil. Que ce soit très en amont des analyses de sol et des terrassements, chose par exemple qui aurait dû être fait à Pise pour éviter que la tour gentiment ne bascule. Tout ce qui ne se voit pas, à savoir les réseaux enterrés, qui va permettre de drainer les égouttures d'équipements, etc. Tout ce qui participe à la structure via les fondations et la charpente du bâtiment et le génie climatique qui va dedans, de façon à tenir les bâtiments réfrigérés. Alors, pour paraphraser quelques acteurs célèbres, c'est beau une raffinerie la nuit. Là aussi, c'est une photo d'une unité qui m'est chère, puisque c'est aussi ce que j'ai construit en Belgique. Pour fonctionner, il y a tout un réseau électrique qui jalonne le sous-sol de l'installation, qui vient alimenter les différents moteurs pour entraîner les machines tournantes, qui vient alimenter les différents réseaux d'éclairage. Et tout ceci nécessite, bien entendu, une variété d'études. Ces installations se pilotent, elles sont dotées d'instrumentation, à savoir des capteurs qui vont permettre de mesurer et de contrôler en temps réel les différents paramètres opératoires, que ce soit pression, température, débit, qui vont bien sûr être rapportés via des systèmes de communication assez poussés de nos jours, donc en termes de fibre optique, etc., vers des systèmes de contrôle centralisés dans des salles de contrôle très modernes comme celle-ci. Il y a une vingtaine d'années, ce genre de choses se faisait de façon pneumatique et on avait des grands tableaux avec toute une série d'alarmes qui prenaient beaucoup d'espace. Maintenant, c'est quasiment piloté comme un jeu vidéo d'une certaine façon, de façon à assurer un contrôle externalisé en salle de contrôle de l'installation pour optimiser les rendements du site. Alors, tout ce que je vous ai montré d'une certaine façon est assez classique de l'ingénierie industrielle. Il y a des domaines qui sont encore plus, enfin, qui sont beaucoup plus pointus que ce que j'ai pu présenter, qui, pour être très honnête, ne sont pas ma spécialité. Donc, il y a toute la structure offshore là qui demande beaucoup plus de calcul et de compétences que de la construction sur terre pour des bêtes questions de poids et d'équilibrage des plateformes. Hein. Donc, on fait appel à beaucoup d'architectures navales. Et encore plus complexe, tout ce qui va être installation offshore sous mer, c'est-à-dire relier les têtes de puits sous-marines vers ensuite les plateformes de production. Donc ça fait appel à des robots spécialisés qui sont manœuvrables de bateaux ou de terre. Ça fait appel à des bateaux d'installation de conduite flexible, etc., etc. Et entre guillemets le nec plus ultra, en tout cas pour Technips, ce sont tout ce qui tourne autour de conduites flexibles et d'ambilicaux. Bon, c'est sûr que sur Terre, il est facile de souder des éléments de tuyauterie rigides les uns aux autres. Sous mer, c'est quand même beaucoup plus complexe, donc on fait appel à des technologies qui relèvent quasiment systématiquement du prototype. Mon camarade Alain Marion vous fera une présentation quelque part, je crois, la semaine prochaine ou fin de cette semaine sur le sujet, de ce que sont ces conduites flexibles, hein, et de leurs difficultés. Les ombilicaux, c'est encore plus poussé dans le sens où non seulement vous convoyez du fluide, mais vous convoyez également de l'information, à savoir des signaux électroniques, de l'électricité pour contrôler la puissance, etc. etc. Donc comme je vous laissais entendre, hein, une panel de connaissances qui va du très traditionnel, pour citer le génie civil, à des technologies de pointe qui sont en fait à chaque fois quasiment des premières. Le point sur lequel je voulais terminer, hein, pour toutes nos installations, bon, une installation industrielle, c'est quand même quelque chose de dangereux, il faut le savoir. On véhicule des produits qui ne sont pas forcément toujours très sympathiques, dans des paramètres opératoires qui dépassent, qui dépassent la norme, hein, des très hautes pressions, des très hautes températures. Donc ça nécessite toute une série d'études pour s'assurer que l'installation puisse être opérée dans les conditions maximum de sécurité. Donc études préventives, hein, donc comme les études ASOP pour Hazardous and Operability Study, ce sont des études systématiques qui permettent en fait d'anticiper ce qui se passerait si jamais les paramètres opératoires venaient à dévier de la normale et de valider le fait que l'installation est apte à y répondre. Des études dites de SEAL pour Safety Integrity Level, de façon à s'assurer que les organes de sécurité, donc les vannes d'isolement, etc., fonctionneront en cas de problème. Et également des études, cette fois plus non plus préventives, mais curatives, de façon à installer des réseaux d'incendie, des réseaux de protection et détection feu et gaz, etc., etc. L'autre côté de la sécurité, c'est aussi le respect de l'environnement. Donc le respect de l'environnement passe d'une part par le génie des procédés, de façon à minimiser le rejet des effluents polluants par des contraintes de plus en plus strictes, et également par toute une série d'études de façon à respecter l'environnement en tant que tel, hein, que ce soit la protection des côtes lorsqu'il y a des rejets dans la mer, que ce soit des études de bruit et des études de façon à obtenir des autorisations de construire. Alors, après les études dans la chaîne de l'ingénierie, il y a la phase d'achat. Des sociétés comme Technip, hein, ne fabriquent pas tous les éléments qui rentrent dans la construction d'une unité industrielle. Ceci est laissé à la charge de sous-traitants. C'est une part très importante dans un projet puisque ça représente de 30 à 50% du coût. Donc vous vous doutez bien que c'est quelque chose sur lequel on met de la valeur ajoutée, hein, puisque c'est notre gagne-pain quand même. Ça fait appel à des fournisseurs qui sont répartis sur toute la planète, donc de façon à optimiser cette phase, on fait appel à des concepts de supply chain management et supplier relationship management, donc de façon à optimiser la chaîne logistique d'une part et optimiser la relation avec le fournisseur d'autre part. Et ça nécessite une organisation adaptée, bon, qui est rapidement décrite sur le petit schéma que je vous ai montré, qui montre les relations informatiques qu'on peut avoir avec différents centres un peu partout sur le monde afin d'amener le matériel vers le lieu de construction. Un petit slide publicitaire pour montrer quelle a été la répartition des achats chez Technip en 2004. Grosso modo, une grosse moitié en Europe, hein, dans beaucoup de pays, particulièrement en Italie, puisque l'Italie est un gros fournisseur d'appareils sous pression, mais également, comme vous le voyez, un peu partout sur la planète, que ce soit en Amérique du Nord ou au Moyen-Orient. Les achats en termes d'activité, il y a la phase d'achat proprement dite, hein, donc acheter du matériel sur mesure, donc l'ensemble des équipements qui sont spécifiés, ainsi que du matériel banalisé comme des éléments de tuyauterie qui vont être amenés pour être soudés les unes aux autres et constituer des ensembles de tuyauterie, par exemple, ou des câbles pour de la connexion vers des équipements. Une phase de relance qui consiste à s'assurer que le fournisseur avec qui on a passé commande honore bien ses engagements et conformément aux objectifs de délai et de coûts qu'on lui a donné. Une phase d'inspection, parce que acheter du matériel c'est bien, mais encore faut-il qu'il réponde exactement aux spécifications et aux objectifs de qualité qu'on lui a donné. Et tout ça, bien sûr, doit être transporté sur le lieu d'assemblage qui est bien souvent éloigné d'une moitié du globe, entre le lieu de fabrication en Corée par exemple et le lieu de construction au Qatar, pour ce qui est mon cas en ce moment. Donc tout ça nécessite bien sûr des outils de suivi performants et je vous montrerai un exemple à la fin de la présentation. Une fois le matériel acheté et les études faites, il convient d'assembler tout ça. Donc ça c'est l'étape d'assemblage finale. On assemble l'ensemble des équipements qu'on a achetés sur le site, selon bien sûr les plans qu'on a bien voulu produire, sans trop les modifier en cours de route malheureusement. avec une petite différence entre l'onshore sur terre, où en fait on fait venir les équipements et le personnel sur le lieu de construction, et l'offshore, où on fait venir les éléments vers un site de production dédié, et ensuite on apporte l'ensemble de la plateforme sur le site en mer. Tout ceci fait appel à des moyens très sophistiqués et assez imposants. Vous voyez à l'image une grue qui est assez gigantesque, hein, puisqu'elle lève un réacteur de polyoléphine. Ça va être une grue qu'on appelle de 1500 tonnes, donc qui est capable de lever dans les conditions optimales jusqu'à 1500 tonnes, bon, la plupart du temps bien sûr moins en fonction des flèches. Faut savoir que pour construire, déjà pour installer une grue de cette taille, il faut environ une quinzaine de jours, donc ça nécessite quelques coordinations pour ne pas payer les frais d'oisiveté, si je puis dire. Vous imaginez que quand on met en place des modules de plateforme en mer, on fait appel à des moyens encore plus sophistiqués. L'autre aspect, c'est que ça fait appel à énormément de main d'œuvre, et donc on est censé gérer énormément de moyens, énormément de ressources sur un même site. À titre d'information, le projet sur lequel je travaille en ce moment au Qatar, nous aurons jusqu'à 15 000 personnes en pic, en pointe sur le chantier, ce qui représente la construction en parallèle d'une petite ville pour loger ce personnel. Les entreprises qui construisent sont des entreprises spécialisées, donc ça nécessite toute une série de passations de travaux. Construire, c'est bien, encore faut-il mettre en route. On parle souvent dans notre métier de contrat clé en main. Bon, faut pas non plus se gargariser, ça ne se démarre pas, ce genre d'installation, comme une voiture. Ça demande énormément de travaux de préparation, de façon à ce que les choses démarrent dans les meilleures conditions de production et de sécurité. Et le tout, c'est que construire, c'est dangereux, surtout quand on construit dans des pays où il fait chaud. Donc notre préoccupation première et principale, c'est bien sûr la santé et la sécurité des personnes dans cette phase. Alors, comme je viens de vous le montrer, hein, l'ingénierie industrielle, c'est une somme de compétences, c'est un enchaînement de tâches et de savoirs. Notre métier de l'ingénierie industrielle va au-delà de cela, hein, puisque ça regroupe la notion de projet. Un projet, finalement, en plus de cette chaîne de l'ingénierie, c'est d'une part une équipe, et une équipe qui a un but, un objectif, hein, c'est-à-dire de répondre à un engagement de construction d'une installation selon un contrat, donc selon un cahier des charges précis qui correspond à des objectifs de coût, de délai et de qualité. Donc en plus de ces tâches, je dirais, techniques et technologiques, on rajoute toute une série de tâches de contrôle et de tâches managériales, je dirais en tout cas organisationnelles, de façon à satisfaire l'objectif qu'on s'est fixé. Je suis directeur de projet, donc je considère bien sûr que c'est un métier à part entière, hein, et donc c'est mon rôle et ma responsabilité de gérer ces compétences pluridisciplinaires qui vont au-delà du cadre scientifique, qui répondent là encore à une variété de problèmes qui dépassent les seuls problèmes scientifiques et techniques, et qui pour y répondre posent des questionnements organisationnels et d'optimisation. Alors, rapidement pour illustrer la pluridisciplinarité, pardon. Donc, on a le projet au centre de notre schéma. Vous avez comme phase du projet l'ingénierie, donc avec l'ensemble des tâches que j'ai pu évoquer. Vous avez également les achats, donc avec les tâches que j'ai décrites. Mais vous avez également une activité de contrôle de projet, de façon à maîtriser les objectifs qu'on cherche, qui passe par un respect des coûts. Malheureusement, on est dans un monde capitaliste et encore faut-il qu'on gagne de l'argent. Un respect de la planification. Cet ensemble de tâches doit être clairement ordonnancé. Ce genre de choses doit être anticipé, ne peut pas être laissé au hasard. Une notion qui apparaît de plus en plus, c'est une notion de gestion des risques, hein, mais risques au sens large du terme, pas simplement des risques d'explosion, etc., mais des risques de défaillance de projet, de raté de projet, donc d'anticipation, avec bien sûr derrière nos relations avec les clients qui ne sont pas forcément toujours très très roses, donc une problématique de contentieux et de paiement d'ordre de modification. Un projet, c'est également un contrat, donc un contrat, ça s'administre, donc ça fait appel à des juristes, à des gens qui sont spécialistes de la fiscalité, des gens qui vont assurer l'ensemble du matériel qu'on transporte, par exemple, ou les sites de construction, et toute une série de travail de facturation et de comptabilité. On produit énormément de documents, hein, que ce soit papier ou électronique, donc ça il faut les gérer, que ce soit documentation finale ou les documents que nous fournissons. J'ai parlé de la construction, je ne reviendrai pas dessus. Il y a ce qu'on appelle aussi la gestion des interfaces. Hein. Lorsqu'on participe à un projet technique, par exemple, on n'est pas seul à bord. On a un client, on a des sous-traitants, on a des entreprises de construction, on a des partenaires parfois. Donc tout ça se gère en termes de flux d'informations. On gère les aspects de contrôle qualité, donc QA, mais également, et ça j'insiste beaucoup, d'hygiène, de sécurité, d'environnement et de sûreté des personnes. C'est vraiment la préoccupation majeure. Énormément de logistique. Hein. Le projet sur lequel je travaille, on va amener l'équivalent de 250 000 freight tonnes de matériel sur le site, jusqu'à certainement saturer l'infrastructure du port de Doha et de Ras Laffan. On prépare la mise en route de façon à ce que le client puisse opérer son installation dans les meilleures conditions à venir. On gère des tiers. On communique vis-à-vis de notre client et bien sûr vis-à-vis de la direction d'entreprise. Et tout ça, bien sûr, nécessite énormément de personnes qu'il faut être capable de gérer. Et je dirais que c'est la partie la plus amusante d'une certaine façon du métier. Donc, pour ensuite parler d'organisation, chaque projet est spécifique, chaque projet a sa complexité, chaque projet a ses objectifs. Hein. Et donc à chaque projet est associé une stratégie d'exécution de façon à répondre dans le cadre des contraintes qui nous sont données au mieux aux attentes du client et au mieux à nos objectifs de rentabilité. Donc cette organisation, c'est vraiment l'outil qui nous permet de nous adapter à ces objectifs et c'est l'outil de gouvernance du chef de projet. Alors elle varie en fonction de la complexité du projet, de l'effet de taille. On n'est pas organisé de la même façon lorsqu'on a un projet au Qatar, en partenariat avec un partenaire japonais qui est sur une durée très limitée, avec un budget d'investissement très élevé, qui fait appel à plusieurs entreprises de sous-traitance, ou lorsqu'on a un projet en Belgique avec un contrat avec un client qui est relativement simple. Donc tout ceci se prépare, se décline de façon à vraiment rentrer au mieux dans les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, de façon à finaliser un peu la présentation, je voudrais vous faire toucher un peu du doigt et peut-être illustrer un peu plus en image ce que c'est que la variété du métier. Bon, la variété, je l'ai déjà définie, hein, c'est la variété des disciplines scientifiques. Bon, on fait appel à de la chimie, à de la physique, à de la pharmacie lorsqu'on fait appel à des usines de pharmacie, de la métallurgie, etc., etc. Il y a aussi une diversité dans les paramètres physiques qu'on manipule. On construit des usines qui gèrent le très chaud. Donc vous avez au milieu de l'écran en haut, par exemple, un four de génération d'éthylène. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, par exemple, aux alentours des 1000 degrés pour le produit. On travaille sur le très froid. Hein, donc une usine de gaz naturel liquéfié, ben, on sort du gaz à moins 169. Dans les très hautes pressions, lorsqu'on fait des installations, par exemple, de polyéthylène haute pression avec des compresseurs hyperbares qui montent jusqu'à 3000 bars, à très basse pression, lorsque, comme la photo au centre, donc d'une unité de distillation atmosphérique est sous vide, on est sous le vide de façon à extraire le mieux les produits. On traite du léger, comme la photo à droite, hein, qui est une usine de traitement de gaz, hein, donc du méthane, donc le gaz le plus léger qu'on peut traiter. Et du lourd, comme la photo en bas à droite, qui est une usine de production de brut synthétique au Venezuela, qui en fait rend du brut dit extra lourd, à savoir qu'il est complètement solide à température ambiante, et le traite de façon à ce qu'il soit transportable, liquide ensuite, et utilisable en raffinerie. Variété des paramètres, mais aussi variété géographique, hein, à peu près sur tous les continents et à toutes les latitudes. À titre d'illustration, Technip, bon, qui est une société, je pense que peu d'entre vous connaissent, est répartie, pardon, sur les quatre coins du globe, enfin sur les cinq continents. Bien sûr, essentiellement, enfin très fortement représentée en Europe et au Moyen-Orient, mais également, par exemple, en Asie du Sud-Est. Alors, on peut construire dans des pays où il fait très très froid. On sait faire. Par exemple, lorsqu'on coule du béton, bah, il faut le réchauffer durant la phase de solidification, sinon ça marche pas. On peut aussi également construire sous le soleil. Là, lorsqu'on coule le béton, il faut mettre des glaçons dedans pour qu'il soit à bonne température pour sécher. On construit bien sûr donc dans le désert. Hein, ça, c'est le site d'Abshan, donc qui est une unité de traitement de gaz à Abu Dhabi. mais également, comme vous avez dû le voir, sur mer et sous mer. Donc ça, je pense que c'est un slide que vous avez déjà vu, qui montre les différents types de plateformes qu'on est capable de proposer en fonction des différentes profondeurs d'eau. Plateformes fixes comme les premières à gauche et parfois flottantes comme les plus à droite. Et bien sûr, l'ensemble des installations sous-marines qui vont avec, de façon à permettre de convoyer le brut qui est sous mer vers la plateforme de stockage. Donc vous voyez par exemple à gauche l'ensemble du réseau de flexibles et d'ombilicaux qui vont ensuite alimenter ce qu'on appelle un FPSO, c'est-à-dire une unité de flottante de stockage et de production d'huile, qui va ensuite exporter le produit vers la côte. Donc comme vous le voyez, on travaille vraiment sur l'ensemble du globe. Alors, dans notre métier, il n'y a pas unicité d'action, il n'y a pas unicité de lieu, il n'y a pas non plus unicité de temps. Hein. L'ingénierie industrielle est un métier qui évolue, hein, qui pour moi en perpétuelle évolution. De fait, de nouvelles méthodes qui apparaissent et de nouvelles contraintes qui nous sont, entre guillemets, imposées ou qui apparaissent. Les projets sont de plus en plus critiques en termes d'exécution. On va de plus en plus profond en mer, on traite du brut de plus en plus lourd, donc il fait appel à des compétences techniques de plus en plus poussées. On est amené à faire des partenariats avec des partenaires pour des clients différents parce que les projets sont de plus en plus gros, etc., etc. Par ailleurs, on a le souci de plus en plus et toujours aussi constant de la santé, de la sécurité et du respect de l'environnement. Donc ça apporte beaucoup d'évolution au métier, bien sûr. Et tout ça dans le cadre d'une révolution informatique, entre guillemets, qui a eu lieu depuis maintenant une trentaine d'années, qui apporte des moyens et des systèmes supplémentaires. Alors à titre d'exemple, ce qui a quand même pas mal révolutionné ou changé notre métier depuis maintenant une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle la CAO, donc la conception assistée par ordinateur. Grosso modo, il y a quelques années, on faisait tout à la main, donc on faisait des beaux dessins, des beaux schémas à la main. On se faisait une petite maquette plastique pour avoir une vision 3D de ce que ça représentait. Aujourd'hui, tout est traité par ordinateur et tout est centralisé sur un ordinateur. Donc à titre d'illustration, voilà ce qu'on avait avant. C'est d'ailleurs un peu dommage qu'on ne le fasse plus, parce que ça avait un côté assez ludique, assez joli. Donc on voyait, en mettant un petit bonhomme, si effectivement l'installation était exploitable, si les gens pouvaient bien opérer les choses. Aujourd'hui, tout est fait de façon électronique. Là, malheureusement, mais je pense qu'Anne Pouliquin, qui vous fera une présentation spécifique sur le sujet, pourra vous montrer de façon plus dynamique ce qu'il en est. On est capable de rentrer à l'intérieur de l'installation, de se promener réellement, de regarder dans le détail si on peut bien opérer une vanne, par exemple, de façon à voir si les tuyauteries sont à bonne distance les unes des autres et éviter les clashs. Et également, sur cette base-là, produire des documents de construction, c'est-à-dire sortir des plans qui vont permettre à l'entreprise de vraiment construire. Donc, en centralisant sur un seul outil, on permet d'optimiser la construction, parce que c'est quand même plus facile pour l'esprit de regarder en 3D directement. On permet aussi d'améliorer le confort de l'opération beaucoup plus rapidement et de tenir compte des commentaires du client. Et enfin, on s'assure une production documentaire comme auparavant. Je ne vais pas m'étendre sur ce slide parce que c'est un peu compliqué, mais alors, bon, supply chain management, c'est un mot un peu galvaudé, mais pour finalement parler de logistique, faut bien se rendre compte qu'une unité industrielle, c'est un gros puzzle avec énormément de pièces à assembler les unes aux autres. Sauf qu'on a, nous, pas envie de le faire comme un puzzle, c'est-à-dire pas au hasard, en prenant un peu une pièce et essayant de la monter. Donc ça nécessite que, entre le moment où on a dessiné la pièce sur un plan, donc au niveau de l'outil d'engineering, on puisse avoir une excellente traçabilité, et ça, l'outil informatique nous aide énormément, jusqu'à l'arrivée de cette pièce sur le site de construction, pour la retrouver et la monter au bon moment par rapport à la planification. Donc tous les carrés que vous voyez, en fait, sont différents modules informatiques, qui sont des outils de conception ou des outils de suivi de matériel. La particularité de ce qu'on sait faire chez Technip, c'est qu'on a un outil intégré qui s'appelle Marianne, qui permet d'intégrer les différents modules informatiques sur lesquels les différents intervenants de notre métier travaillent, afin que ces modules communiquent et qu'on puisse avoir une excellente traçabilité des pièces de notre pulse, du départ, à savoir du bureau d'études, jusqu'au site de construction, afin que ça se passe de façon optimisée. Alors, tout ça, bien sûr, fonctionne avec des systèmes d'information développés et poussés. L'ingénierie industrielle, c'est pas la nouvelle économie, mais on s'en sert. Donc là, c'est vraiment un slide un peu publicitaire pour montrer comment nous sommes organisés en termes de réseau. Je vais pas développer, j'en ai pas la compétence, mais chacun de nos sites, un peu par répartis dans le monde, est capable de communiquer avec un système qui est central, et chacun est capable d'échanger des données informatiques de façon très rapide pour le bien du projet. Ce qu'on utilise énormément, ce sont des bases de données projet. Donc là, à titre d'exemple, je vous montre la page de garde d'un site extranet qui a été utilisé pour un projet, je crois que c'est la conception d'une usine de polyéthylène aux Pays-Bas, où en fait l'ensemble des données, des informations, des fichiers électroniques étaient stockés sur une base de données qui était accessible en interne, mais aussi via un site extranet, donc via Internet. Chacun pouvait consulter, extraire des données, extraire des fichiers et travailler dessus. En particulier, ce qu'on faisait auparavant, c'est que tout était stocké dans des grands classeurs, dans des grandes armoires, de façon à ce que chacun puisse venir consulter tout ça. Il y avait une duplication des stockages, une duplication des copies. Aujourd'hui, tout est sur informatique. Bon, il y a toujours des impressions papier, mais par exemple, quand vous commentez un plan, quand vous commentez des données, ça se fait électroniquement en utilisant Acrobat pour citer le nom, via un ordinateur. Donc il y a une économie de temps, une économie de papier bien sûr, un partage d'informations et surtout on évite de perdre du temps en retraitant, en reportant des données, en recopiant des données. Alors, pour conclure cette présentation, je pense que je vais à peu près respecter le temps, donc déjà c'est bien en termes d'objectifs. Je vais faire une conclusion à la c'est ce n'est pas. En tout cas, bon, pour commencer, l'ingénierie industrielle, s'il faudrait retenir que ça, ce que j'aimerais, c'est que vous n'ayez pas l'image d'une vilaine usine sale et de gens qui produisent pour polluer de façon déraisonnée. J'ai essayé de vous montrer que c'était quelque chose, au contraire, de très contrôlé, très structuré, qui avait à cœur de dépasser à chaque fois les limites de ce qu'on savait faire afin de maîtriser vraiment l'environnement et la sécurité des personnes. Alors, c'est presque, mais ça c'est plus pour moi, et en tout cas c'est plus ce qui me motive dans ce métier, donc c'est presque une réalisation architecturale. J'ai souvent tendance à dire que je trouve les unités qu'on construit belles. Bon, ça peut être sujet à polémique, bien sûr. Et en tout cas, c'est vraiment un métier où il y a un foisonnement scientifique énorme, qui fait appel à des technologies, comme je l'ai dit, traditionnelles, mais surtout de plus en plus, même si le métier a l'air assez ancien, de pointe, et qui essaie de rassembler, de mettre en commun toute une série de compétences dont je pense la plupart d'entre vous peuvent connaître de façon parcellaire, en tout cas dans les domaines qui les concernent plus précisément. C'est également, et ça c'est vraiment l'intérêt du métier, c'est un travail d'équipe. Hein, j'ai souvent tendance à répondre à la question, lorsqu'on me demande « savez-vous travailler en équipe ?», je réponds souvent « je ne sais travailler qu'en équipe d'une certaine façon ». On est très très nombreux à travailler sur nos projets, on partage bien sûr une fois de plus, comme j'ai dit, nos compétences, et le tout, et ça c'est vraiment très enrichissant dans le cadre d'un environnement multiculturel. En ce moment, je travaille avec des Japonais, je sous-traite une part des études à Abu Dhabi, donc j'ai beaucoup d'Indiens qui travaillent avec moi. Malheureusement, toutes nos réunions sont en anglais parce qu'on a des Allemands, des Anglais qui travaillent dans le projet. Donc c'est vraiment très enrichissant et on apprend à se servir de la culture des gens avec qui on travaille pour passer les messages et pour avancer. Et enfin, pour vraiment conclure, même si l'ingénierie industrielle, c'est un secteur d'activité qui peut être considéré mûr, hein, en particulier, bon, à titre d'illustration, le pétrole, ça fait quand même un petit peu passéiste, c'est quand même quelque chose qui est en perpétuelle évolution, en perpétuelle renaissance, et qui, je n'en doute pas, nous réserve encore dans l'avenir de nombreux et de grands défis. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je vais me servir un grand verre d'eau, parce que j'ai beaucoup parlé. Et je me
lumière et on va répondre. Vous allez répondre aux questions qui vont apparaître. En voici déjà une. Signalez-vous.
Merci, hein, monsieur, de votre exposé. Dans les problèmes que vous avez soulevés pour réaliser un projet, vous n'avez pas parlé de la contrainte délai. Or, la contrainte délai est, comme vous le savez, fondamentale quant à la rentabilité de l'investissement, et en particulier les outils CAO et autres permettent justement de réduire ce cycle. Est-ce que c'est une contrainte que vous prenez en compte et qu'est-ce qu'elle a permis d'obtenir?
Alors, j'ai peut-être parlé trop vite, mais lorsque j'ai parlé du projet, je vous ai dit que le plus que ça apportait par rapport à la simple chaîne de l'ingénierie, c'était de répondre à un objectif qui était bien sûr articulé au cours du triangle qualité, coût, délai. Dans le cercle que je vous ai présenté, il y avait l'aspect planification qui était bien sûr l'ordonnancement de l'ensemble des tâches de façon à s'assurer que nous allons respecter cette contrainte de délai. Dans le contrôle de projet, le délai bien sûr est au cœur de l'activité. On suit de façon régulière via des outils, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais comme par exemple Primavera, qui sont des outils de, comment dirais-je, pour prendre un mot à peu près clair, de diagrammes potentiels tâches avec des chemins critiques qui permettent d'identifier dans la succession des tâches du projet ceux pour lesquels on a le moins de marge et sur lesquels il faut absolument respecter la durée des tâches et l'enchaînement si on veut justement que la date finale du projet soit respectée. Donc bien sûr, ça fait partie des choses qu'on suit de façon régulière. Alors, est-ce que les outils informatiques, et en particulier la CAO, a permis de réduire les délais? Ça, c'est une question qui est un peu plus compliquée. Moi, je pense que les outils informatiques ont permis de travailler différemment, nous ont permis de faire plus de choses que ce qui pouvait peut-être se faire avant, en particulier en termes d'opérabilité et de sécurité des installations. Vous dire que ça a vraiment réduit les délais, j'en suis moins sûr. Je laisserai Anne Pouliquen éventuellement vous donner son avis sur le sujet. L'informatique, bien souvent, nous permet plus de choses, donc nous permet de nous poser plus de questions, certes de gagner un peu de temps. Malheureusement, l'esprit humain fait que le temps qu'on gagne, parfois, on le passe à étudier des choses qui nous intéressent.
Monsieur.
C'est peut-être une question saugrenue qui s'adresse autant aux conférenciers qu'à Monsieur Michaud. Sur 8 conférences, au moins 7 concernent la pétrochimie et la chimie. Je pense que l'ingénierie industrielle ne se limite pas à ce domaine. Je pense le TGV, les constructions de centrales nucléaires, ITER, Airbus, le spatial aussi, la navette ou alors Ariane, les plateformes spatiales. Ce sont des projets d'ingénierie industrielle également. Est-ce que vous ne pensez pas passer à côté de domaines importants comme l'assurance qualité, qui sont des métiers, la fiabilité, des choses comme ça? Je ne vois apparaître nulle part.
Bien, vous avez tout à fait raison, hein, l'ingénierie industrielle, c'est pas que du pétrole. Alors, bon, malheureusement, entre guillemets, Technip, c'est une société qui fait une grosse partie de son activité sur l'industrie pétrolière. Vous aurez une présentation, par exemple, sur les biocarburants par des gens qui travaillent dans le secteur plus industrie, donc qui travaillent sur des projets comme ce que vous avez évoqué, hein, l'Airbus, qui était quelque chose qui était fait par Technip. Les centrales nucléaires, bon, c'est pas vraiment notre tasse de thé, mais c'est effectivement à la base le même principe et ça recouvre les mêmes activités. Je ne suis pas, très honnêtement, un spécialiste de ce genre d'activité. Je travaille beaucoup plus sur le domaine pétrolier, je m'en excuse. J'ai pas, et c'est vrai, évoqué l'assurance qualité. J'en ai juste un tout petit peu parlé dans le slide au niveau du projet. C'est bien sûr une activité à part entière de notre métier. Que ce soit chez nous en interne pour valider bien sûr que nos processus, bon, Technip est une société qui est certifiée ISO 9001-2000 et également ISO 10006. Bon, le respect de l'ISO c'est une chose, mais aussi s'assurer que nos processus fonctionnent correctement. On s'assure également que nos sous-traitants et nos partenaires travaillent conformément à la qualité. Et le rôle du directeur de projet que je suis, c'est dans tout début de son projet de sortir son plan qualité qui va définir les objectifs qualité du projet qui vont permettre à l'ensemble des disciplines de développer la façon dont ils vont élaborer leur processus et les contrôler. On pourra en reparler plus tard si vous voulez, il n'y a pas de problème.
Juste derrière, on a une.
Oui, donc je n'ai pas vu apparaître de façon claire dans votre présentation l'implication des futurs utilisateurs, à savoir que souvent dans des projets d'ingénierie, assez rapidement, on intègre à l'équipe les futurs utilisateurs et ce point-là mérite d'être souligné. Donc, qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet ?
Vous avez raison. Alors, ce genre de choses dépend bien souvent du client. Il ne faut pas perdre de vue que une société d'ingénierie comme Technip n'est pas propriétaire du projet. In fine, le projet, à la fin, comme vous le dites, il est utilisé, enfin l'installation industrielle est utilisée par un client. Les clients ont des habitudes qui sont diverses en fonction de leur culture. Vous avez des clients qui s'impliquent très très peu durant toute la phase de conception et qui interviennent uniquement sur la phase de fin. Et vous avez des clients qui contrôlent énormément et qui participent de façon à mettre, je dirais, leur valeur ajoutée. Au cours de nos études, il y a toute une série de points d'arrêt. Et ça, c'est sûr que la CAO 3D a beaucoup aidé, qui permettent aux clients, aux futurs utilisateurs d'intervenir et de commenter de façon à façonner, entre guillemets, à leur main, même si, bon, c'est jamais très simple, l'installation qu'on va faire. Vous avez des revues, par exemple, ce qu'on appelle les schémas PID, donc ce qu'on appelle les plans de circulation des fluides, hein, qui, de façon à valider que, je sais pas, les standards du client sont bien respectés, les systèmes d'isolement sont bien les bons. Lorsque vous développez la maquette 3D en temps réel, à plusieurs étapes de conception, le client et les opérateurs interviennent de façon à s'assurer que les bonnes plateformes d'accès sont là pour opérer les vannes, de façon à s'assurer que les équipements sont bien disposés les uns à côté des autres. Lorsqu'on fait les études de sécurité que je vous ai mentionnées, comme les études ASOP, le client intervient, l'utilisateur final intervient. Donc, tout ça pour vous dire, il y a quantité de revues très spécifiques, que c'est vrai, j'ai pas mentionné, auxquelles le client participe. Ensuite, au moment de la phase de fin, enfin, durant la phase de construction et de démarrage, le client revient de façon à valider que ce qui a été construit et qui est effectivement sur site est bien conforme à ses attentes et à faire une bonne transition entre la fin de construction qui est très statique et le début de mise en route qui va lui être opératoire. Donc là, il y a un chevauchement à cette phase spécifique du projet. Et à ce moment-là, bien sûr, nous disparaissons.
Eh bien, monsieur, hier soir, vous vouliez poser une question, vous n'avez pas pu.
Merci. Quelle est la part liée au démantèlement dans le cadre de la chaîne d'ingénierie ?
J'ai pas entendu, excusez-moi.
Quelle est la part liée au démantèlement des sites, des usines ou des plateformes ?
Dans la conception.
Alors, là, pour être très honnête, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Les usines, bien sûr, sont faites pour être démontables. Les usines que nous concevons sont faites également pour éviter que nous polluions les sols, etc. Donc, en termes de génie civil, ce genre de choses est fait. On suit, bien sûr, les codes de construction reconnus qui prohibent l'ensemble des matériaux tels l'amiante, par exemple. Bon, au-delà de ce genre de choses, malheureusement, je n'ai pas la compétence pour vous répondre.
Ici, monsieur.
Vos clients vous demandent-ils du transfert de technologie et est-ce que ça pourrait vous nuire si c'était le cas ?
Qu'est-ce que vous appelez par transfert de technologie ?
De fait qu'ils puissent acquérir des compétences que vous leur fourniriez et qu'ils pourraient utiliser après pour leur propre
projet. Alors là, il y a dans le cadre de nos projets des accords de secret et de licence qui sont clairs et nets. Je doute que ce genre de choses puisse se faire. Je pense que les clients avec lesquels on travaille savent bien que les licences ou les propriétés industrielles, la propriété industrielle a de la valeur et je les vois mal s'aventurer sur ce terrain, quand bien même nous travaillerions avec des clients chinois. Ça a pu apparaître, je pense, dans le passé, j'étais pas né. Mais aujourd'hui, je pense que les clients sont très très attentifs, enfin sont très précautionneux sur ce sujet, étant eux-mêmes propriétaires de propriétés industrielles.
Monsieur,
avez-vous des préoccupations esthétiques quand vous faites un projet ?
Malheureusement, non. Alors, l'esthétisme, malheureusement, pour un ingénieur, ça ne se couche pas sur une spécification. Et quand je plaisantais en disant que je trouvais que les installations industrielles étaient belles, je ne suis pas convaincu que tout le monde partage mon point de vue. Ce qui se fait en revanche, c'est que on essaie de prendre en compte des critères de ce qu'on appelle en anglais de human factor, de façon à s'assurer que les gens vont bien pouvoir opérer correctement l'installation en termes de taille des choses, de lisibilité des instruments. En termes d'esthétique pure et dure, bon, c'est sûr que si vous construisez dans le Golfe, la salle de contrôle aura plus de marbre que si vous construisez dans un pays européen. Voilà.
Encore une question, vous nous en restons là. Encore une dernière question. Qui est où ? Où est-elle exactement ? Ah oui, elle est vraiment cachée.
Quelles sont vos motivations à réaliser ou non le projet ?
Quelles sont les ?
Les motivations.
C'est une question très vaste. Du point de vue de l'entreprise technique, bah, vous imaginez bien, hein, c'est notre gagne-pain, donc il s'agit de dégager une marge. En ce qui me concerne, bon, je plaisantais avec la collaboratrice de Monsieur Michaud en arrivant, en disant que bon, Technip c'était une société pour moi que je ne connaissais pas il y a 15 ans. Moi, je voulais faire de la recherche en chimie, donc vous voyez, les choses ont changé. La motivation du métier, hein, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Déjà, la notion de projet, c'est un travail en équipe, hein, et avec des gens différents en permanence, et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on fait avancer le train ensemble, il y a quand même, il y a quand même une motivation. Intellectuellement, pour l'ingénieur que je suis, c'est pas désagréable. On touche plein de trucs différents. Je m'imaginais pas, par exemple, traiter de contrat d'assurance, traiter de contrat, etc., tout en restant finalement dans un domaine chimique qui m'intéresse également et thermodynamique qui m'intéresse également. Donc il y a une espèce de spontanéité culturelle et une fraîcheur qui nous permet de nous garder motivés. Dernier point, là pour être vraiment dans le domaine très psychologique, bah, quand on est enfant, on aime peut-être bien les jeux de construction, donc des grands puzzles comme ça à échelle humaine, ça, moi ça m'a toujours plu, ça m'a toujours passionné et je pense que ça me passionnera encore.
Merci beaucoup.